Radio Campus.
C'est la radio, ça ? Allumez.
Radio Campus, la radio idéale pour votre autoradio.
88.3.
Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Univox du réseau Radio Campus France. Aujourd'hui, c'est Radio Campus Besançon qui prend l'antenne pour vous parler de la Nuit des chercheurs.
Alors, la Nuit des chercheurs, c'est un événement scientifique qui se déroule sur une soirée dans plusieurs villes de France fin septembre. À Besançon, par exemple, il est organisé par le service Sciences, Arts et Culture de l'Université de Franche-Comté.
Les chercheurs et chercheuses sont tous réunis en un même lieu pour parler de leur objet d'étude, qu'il soit écologique, littéraire, physique, sur la santé ou encore le patrimoine.
Et ces lieux sont souvent insolites, bien loin des traditionnels labos, type hangar, musée, château, parc ou chez nous en 2024, le FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain.
Pendant cette soirée, il ne s'agit pas d'écouter un cours théorique sur une recherche, mais de se retrouver plongé dans une scénographie pour des discussions dans le noir, en speed dating, à bord d'un bateau ou encore à l'écoute de podcasts créés juste pour l'occasion.
En somme, cette soirée est l'occasion de rapprocher science et société, de rendre accessible et de vulgariser les recherches scientifiques.
Et justement, dans le cadre de cet événement, Radio Campus Besançon, en partenariat avec le service Sciences, Arts et Culture de l'Université de Franche-Comté, a créé une série de podcasts intitulée « Ma sortie de piste ». Ce titre a été choisi tout simplement parce que le thème de cette nuit des chercheurs était « Sortie de piste ».
Cette série a été réalisée en collaboration avec quatre chercheurs, Guillaume Costi, Stella Cambronne, Marie Vautier et Alicia Plessé-Colucci. Pendant plusieurs semaines, nous avons travaillé ensemble à l'élaboration de ces quatre épisodes. Le jour même de la Nuit des chercheurs, nous avons présenté nos créations au public qui pouvaient ensuite poser toutes les questions qu'ils souhaitaient aux scientifiques.
On vous propose maintenant de découvrir tous ces épisodes dans cet Univox.
Univox.
Et on commence notre séance d'écoute avec le podcast Hors piste et hors limite, Entendre au-delà des sons, est-ce possible ? De Guillaume Costi, doctorant en psychologie, spécialisé en psychologie cognitive et neuropsychologie. Ici, on vous propose une plongée dans vos souvenirs cognitifs, une immersion dans le son et une invitation au questionnement.
Hors piste. Quelle intéressante expression appliquée à la recherche scientifique. Si elle peut faire trembler même les plus téméraires des skieurs et skieuses...
Et les pilotes d'avion.
Elle est parfois, si ce n'est souvent, de meilleur augure pour la recherche. Résultat inattendu, débat et nouvelles pistes à explorer. Ainsi va la science. Dis-je aussi, peut-être pour me rassurer, au regard de l'histoire que je m'apprête à vous raconter.
Eh ben ça commence bien.
Je suis Guillaume Costi, doctorant en psychologie cognitive, et cela va faire 3 ans maintenant que je pratique le hors-piste.
On parle toujours de science, là ?
En 1989... Helen Introb et Michael Richardson observent que, lorsque nous devons nous souvenir d'une image, nous avons tendance à nous rappeler son cadre comme plus large qu'il ne l'était.
Mais ça sert à quoi ?
Imaginez. Vous reculez d'un pas, vous allez de suite voir plus de choses dans ce qui vous entoure. Il se passe la même chose dans votre mémoire, une espèce de pas mental en arrière, sans que vous n'ayez à vous déplacer.
Et ça sert à quoi ?
L'effet d'extension des limites, c'est son nom, vous informe à chaque instant de ce qu'il pourrait y avoir au-delà de votre champ de vision, afin d'anticiper rapidement votre environnement.
Ah, je vois, je vois.
Depuis, on a pu observer qu'il n'apparaît pas seulement pour des images, mais aussi des scènes en 3D, perçues par le toucher avec les yeux bandés. Et le son dans tout ça ?
Eh oui, le son dans tout ça. Il est où le son ? Vous, là, avez-vous vu le son ?
En 35 ans, personne n'a pu observer cet effet pour des sons.
Ah, bah si personne n'a vu le son.
Au contraire, la seule étude s'y étant intéressée, celle de Johanna L. Hutchison et ses collègues en 2012, observe l'effet inverse, une restriction des limites.
Ah, c'est ballot ça.
On se souviendrait d'une phrase ou d'une musique comme plus courte qu'elle ne l'était. On retiendrait plutôt le sens global de cette phrase, de cet air de musique, et non pas de tous les détails, de tous les mots, de toutes les notes. Bingo ! Tout ce qui m'intéresse. Perception, connaissance, biais cognitif et musique. Me voilà lancé sur la base d'une étude de niche. À peine commencé, déjà en hors-piste.
Et c'est pas fini.
Mais c'est positif. Tout est à découvrir et les idées fusent. On pourrait faire ceci. on pourrait faire ça.
Ah bah ça alors, comme par hasard.
Une fois, deux fois, cela limite mon champ d'action afin de lancer pleinement mes recherches. Me voilà alors arrivé en thèse, avec la question « Entendre au-delà de la musique ». L'effet d'extension des limites existe-t-il dans la modalité auditive ?
Spoiler, non.
En 3 ans, plusieurs protocoles expérimentaux verront le jour. Nous avons demandé à nos participants de mémoriser des sons de notre environnement quotidien, comme des oiseaux, des voitures, une rivière.
On s'y croirait, c'est charmant.
Puis, nous présentions à nouveau le son, en demandant aux participants de dire s'il était plus court, plus long ou identique au premier. Voici un exemple.
Oh, c'est bien, c'est interactif.
Alors, plus court, plus long ou identique ?
Plus long !
Et la réponse était identique.
Oh, je le savais.
En interrogeant un grand nombre de personnes, nous avons constaté que le deuxième son était perçu comme plus long que le premier, bien qu'identique. Nous obtenons, nous aussi, une restriction des limites. Le souvenir du premier son est raccourci. Le deuxième paraît donc plus long.
Ah, quel dommage ! À ça de réussir !
Alors, nous avons ajouté un mot ou une syllabe en plus, pour faire comme des images, qui présentent un objet sur un arrière-plan.
Livre.
Mais là aussi, restriction.
Faudrait pas que ça devienne une habitude.
La restriction dans le temps semble tenace. Donc, nous avons tenté de jouer, de manière inédite, sur le nombre d'objets présents dans la scène. Là aussi, restriction. On se souvient de moins d'objets qu'il n'y en avait, donc on a l'impression qu'il y en a plus dans le second son.
C'est que ça devient une habitude.
Enfin, nous avons utilisé de la musique.
Que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le Capitaine Jack.
Là aussi, nos participants, musiciens ou non, témoignent d'un effet de restriction.
Faudrait penser à se reconvertir, non ?
Pourquoi n'observe-t-on pas d'extension du son ?
Quel suspense !
Nos yeux nous informent sur une partie seulement de ce qui se trouve autour de nous. Anticiper ce qui peut surgir dans ce champ de vision restreint semble donc crucial. A l'inverse, nos oreilles captent des sons tout autour de nous en même temps. Il peut donc être plus adapté d'aller chercher les informations les plus pertinentes au milieu de ce brouhaha. Aussi, un son est éphémère. Le réduire permet donc de le garder plus facilement en mémoire. En somme, parce que j'observais continuellement un effet de restriction plutôt que d'extension pour des sons, j'ai pensé être en hors-piste durant tout ce temps. Mais, arrivé à la fin de ma thèse, je pense qu'il est bon de faire la paix avec cet effet de restriction. Il n'est pas méchant et peut-être est-il depuis le début la bonne piste.
Et tout est bien qui finit bien. Bonsoir, monsieur, dame.
Hors piste et hors limite, entendre au-delà des sons est-ce possible ? Un podcast de Guillaume Costi, doctorant en psychologie, spécialisé en psychologie cognitive et neuropsychologie, réalisé dans le cadre de la Nuit des chercheurs 2024.
Univox.
On écoute maintenant le deuxième épisode, Une chercheuse dans les îles, proposé par Stella Cambronne, enseignante chercheuse à l'Université de Franche-Comté et auteure de l'ouvrage « Apprendre à l'âge adulte en X étapes, mode d'emploi pour déployer tout votre potentiel et exceller dans vos projets, 50 fiches pratiques ». Ici, on vous propose de voyager dans les îles de Sainte-Lucie et de la Dominique afin de réaliser une recherche sociolinguistique auprès de la communauté éducative.
Je suis Stella Cambronne, maître de conférence à l'Université de Franche-Comté depuis octobre 2012 et auteure de l'ouvrage « Apprendre à l'âge adulte en 10 étapes, mode d'emploi pour déployer tout votre potentiel et exceller dans vos projets en 50 fiches pratiques ». Nous sommes le 10 septembre 2008. Le master terminé en étant major de promotion, me voilà en route pour 3 années d'études supplémentaires afin de préparer une thèse de doctorat en sciences du langage, une thèse financée par une organisation internationale, l'UNESCO, ayant un département basé à Sainte-Lucie, une île anglophone, dans la Caraïbe. Valise en main, ordinateur et carnet de notes dans le sac à dos, j'étais enfin prête pour ce voyage de 3 ans où j'avais pour mission principale de mener une recherche sociolinguistique d'envergure auprès de la communauté éducative. Cette recherche-action devait permettre, d'une part, de dresser le paysage linguistique et culturel de Sainte-Lucie et de la Dominique, et d'autre part, cette recherche avait pour but d'évaluer la place des langues dans les systèmes éducatifs de ces deux îles, membres de la francophonie. La problématique était la suivante. Dans quelle mesure un enseignement plurilingue était-il possible dès l'école primaire? Était-il envisageable que l'anglais, langue officielle et langue de scolarisation, cohabite avec d'autres langues, dont les langues premières des élèves, afin d'améliorer la qualité des enseignements des apprentissages? Autrement dit, dans quelle mesure l'école pouvait-elle s'appuyer sur le répertoire langagier des élèves pour faciliter l'acquisition et la consolidation des apprentissages de base, c'est-à-dire lire, écrire et compter? Étant rigoureuse, motivée et consciencieuse, qu'est-ce qui pouvait bien venir assombrir ce beau projet de recherche où des enquêtes par questionnaire, par entretien semi-directif et par observation de classe allaient être menées auprès de la communauté éducative dans les deux îles, soit auprès de plus de 5000 enquêtés? Et voilà, nous sommes en septembre 2009. Je commence ma première enquête par questionnaire en interrogeant plus de 1500 élèves de manière assez directe et je pose une première question dans ce questionnaire de 15 questions. Quelle est ta langue maternelle? Et là, je réalise que le terme langue maternelle renvoie à plusieurs réalités. Un élève m'interpelle. Excusez-moi madame, en fait ma mère, elle n'est pas là et en fait... Excusez-moi madame, en fait, j'ai grandi avec mon père, du coup, est-ce que c'est quand même ma langue maternelle? Un autre élève m'interpelle. Excusez-moi, madame, en fait, j'ai été élevée par mes grands-parents. Est-ce que, du coup, c'est ma langue maternelle? Excusez-moi, madame, en fait, j'ai mes parents adoptifs. Est-ce que c'est aussi, du coup, ma langue maternelle? Bref, première péripétie. J'avais imprimé 1500 questionnaires sans faire de questionnaire auprès d'un groupe témoin. Leçon à retenir, évitez les termes polysémiques et quand vous faites une recherche d'envergure, privilégiez un groupe témoin avant de tout imprimer. Quelques mois plus tard, nouvelle péripétie. J'arrive dans un collège pour interroger un directeur d'établissement. Je suis reçue par un jeune homme que je pensais être un surveillant et là, je commence à échanger sur ma recherche. Je dis, voilà, je vais poser quelques questions au directeur d'établissement. Bon, je ne vais pas être trop précise non plus parce que je veux quand même garder une distance épistémologique pour ne pas l'influencer dans ses réponses. Et là, je me rends compte que ce jeune homme que je pensais être le surveillant était en réalité le directeur d'établissement. Leçon à retenir, conserver une posture de chercheur dans le cadre de la recherche. En guise de conclusion, ce qui est important dans la recherche n'est pas simplement le résultat obtenu, mais également le chemin parcouru pour y arriver. Être capable de se remettre en question et faire les ajustements nécessaires.
Une chercheuse dans les îles, un podcast de Stella Cambronne, enseignante chercheuse à l'Université de Franche-Comté et auteure de l'ouvrage « Apprendre à l'âge adulte en X étapes », mode d'emploi pour déployer tout votre potentiel et exceller dans vos projets, 50 fiches pratiques. Et cet épisode a été réalisé dans le cadre de la Nuit des chercheurs 2024. êtes à l'écoute de l'émission Univox sur les ondes des radios du réseau Radio Campus France. Aujourd'hui, on vous parle de la nuit des chercheurs et d'une série de podcasts qui a été créée à cette occasion par Radio Campus Besançon et ça s'intitule Ma sortie de piste.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Et c'est tout naturellement que nous passons au troisième épisode de cette série avec Journal d'une doctorante précaire en temps de pandémie, réalisé par Marie Vautier, maître de conférence pour le laboratoire Eliade Pôle didactique et éducation. Ici, elle revient sur la réalisation périlleuse de sa thèse entre l'enseignement du français langue étrangère, l'interculturalité, les malentendus et les normes communicatives.
Nous sommes le 1er septembre 2019. Je suis Marie Vautier, enseignante de français pour les étrangers, ce qu'on appelle aussi le français langue étrangère. Et aujourd'hui, je deviens officiellement doctorante en sciences du langage mention français langue étrangère. Je commence enfin le travail sur le sujet de ma thèse, qui s'intitule « L'éthos communicatif et l'articulation des cultures éducatives en classe de français langue étrangère. Identification, influence et adaptation ». Cette thèse, comme la majorité des thèses en sciences humaines et sociales, est non financée. Je conserve donc mon emploi d'enseignante de français dans un institut lyonnais, tout en menant de front ce travail qui me semble conséquent mais nécessaire. Je souhaite, à travers cette recherche, mieux comprendre la façon dont les malentendus interculturels peuvent survenir auprès d'apprenants de français langue étrangère et comment ils impactent leur apprentissage du français. En particulier, je m'intéresse à ceux provoqués par des normes communicatives différentes. Pour cela, je voudrais faire des observations en classe dans l'institut où je travaille, auprès d'apprenants aux multiples origines, pour voir ces malentendus in vivo et les doubler d'entretiens auprès des apprenants qui sont présents. Bon courage à moi. Nous sommes le lundi 17 mars 2020.
J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits.
Après plusieurs jours de doutes et de confusion, Emmanuel Macron vient d'annoncer un confinement national. Que va-t-il advenir de mes apprenants? Comment vais-je pouvoir continuer à leur enseigner le français? Et ma recherche doctorale dans tout ça? Bon, on est tous confinés, ok, ce n'est pas grave, je vais m'en sortir. J'y vois en tout cas l'opportunité pour moi d'avoir plus de temps. Plus de temps de préparation de cours, d'une part, et surtout plus de temps à accorder à ma thèse, d'autre part. De ce côté-là, ça ira, je pense. Nous sommes en avril 2020. C'est compliqué. La moitié de mes apprenants a décroché en une fois suite à l'annonce des confinements. Je fais des cours qui perdent leur sens à des étudiants que je peux compter sur les doigts d'une main. Je suis isolée dans ma thèse et je sens déjà que cette situation va durer. Heureusement, j'ai trouvé un réseau de doctorants en ligne créé à l'initiative de l'une d'entre nous. Cela brise ma solitude et ouvre mes horizons. Je suis toujours dans ma première année de thèse, c'est-à-dire dans une phase de lecture intensive, de dépouillement bibliographique conséquent. C'est-à-dire que je lis beaucoup d'articles scientifiques et beaucoup d'ouvrages également. Là où je suis confinée, aucun moyen de revenir auprès des bibliothèques universitaires. Grâce à ma nouvelle famille de doctorants, je trouve pourtant des solutions. Mais pour combien de temps? Nous sommes en février 2021. Après plusieurs confinements, j'ai perdu mon emploi et me retrouve donc sans ressources en dehors de mon allocation chômage. Côté thèse, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu pour mes ressources bibliographiques et ai déjà décrit la quasi-totalité de mon cadre théorique. Mais se pose maintenant la question de la réalisation de mon enquête sur le terrain. Les observations de classe que j'avais prévues ne peuvent pas se faire. J'ai donc dû changer ma méthode d'enquête. L'équipe contactée pour la diffusion de mes questionnaires et la réalisation de mes entretiens est sous tension. Les réponses tardent parfois à venir et cette mise en place semble houleuse. Nous sommes en juin 2021. J'ai pu réaliser, bon gré malgré, ma passation de questionnaire en ligne et mes entretiens sous diverses modalités. Par visioconférence, téléphone, en présentiel, parfois, dans un café lyonnais. Le nombre de réponses au questionnaire est pourtant trop faible. Et les résultats sont de fait peu analysables en l'état. Que vais-je faire? Nous sommes en septembre 2021. Je commence mon nouvel emploi dans mon université de rattachement. J'ai malheureusement connu un drame personnel conséquent durant l'été, et donc tout encaissé en parallèle de ma thèse me fragilise. Mon directeur de recherche a heureusement trouvé une solution à mon problème de collecte et d'analyse de données. Doubler mon terrain dans un autre centre de langue, avec un public plus précis, celui d'apprenants malaisiens en échange. Ma thèse va donc prendre une dimension inattendue et en sera, à mon sens, bien plus renforcée, en comparant des publics hétérogènes et homogènes, en termes de nationalité seulement. Mon sujet n'est donc pas fondamentalement modifié. En revanche, mon analyse s'en trouvera plus fournie et plus intéressante à mes yeux. Je suis soulagée. Nous sommes le 23 novembre 2022. Aujourd'hui, je soutiens ma thèse de doctorat. Après ces 3 années d'aléas divers et variés, j'ai fourni 2 volumes conséquents aux membres de mon jury. Elles ne ressemblent en rien à ce que j'avais imaginé au préalable. Je suis néanmoins fière d'avoir réussi à la mener à terme, même si à présent je ne vois que ses faiblesses structurelles, en partie dues aux divers bouleversements dont j'ai fait l'expérience. Après 20 minutes de présentation et presque 2 heures d'interaction intense et intéressante avec les membres de mon jury, je l'ai fait. On me déclare docteur en sciences du langage, mention français langue étrangère, français langue seconde. Juste après avoir invité le public à se diriger vers la salle du pot de thèse, je m'effondre. Nous sommes en septembre 2023. Après des années de galères financières et émotionnelles en tout genre, j'ai accédé à un début de carrière inespéré, celui d'enseignante-chercheuse à l'Université de Franche-Comté. C'était mon rêve et je l'ai atteint. J'aime croire à présent que sans ces imprévus drastiques, rien de tout ceci ne serait arrivé. Cela me rappelle quelque chose que j'avais déjà observé sur certains sites archéologiques. Des murs solides peuvent être construits sur des bases qui le sont moins. N'est-ce pas là une belle leçon de vie ?
Journal d'une doctorante précaire en temps de pandémie, un podcast de Marie Vautier, maître de conférences pour le laboratoire Eliade, réalisé dans le cadre de la Nuit des chercheurs 2024.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Aujourd'hui, on vous parle de la Nuit des chercheurs et de notre série de podcasts Ma sortie de piste.
Voici donc le dernier podcast de cette série. Il s'intitule « Les imprévus d'une thèse imprévue », réalisé par Alicia Plascolucci, doctorante au laboratoire de socio-anthropologie de l'Université de Franche-Comté. Ici, on vous propose une sortie de piste à 180 degrés d'études de géographie à une thèse en sociologie sur la carrière des TDS, les travailleurs et travailleuses du sexe.
Je m'appelle Alicia Plascolucci, je suis en 2e année de thèse. Elle porte sur la carrière des TDS. C'est l'acronyme utilisé par mes informatrices pour parler de leur activité, le travail du sexe. Pff, mais quelle galère de choisir une seule anecdote à vous raconter quand toute la thèse est une collection de moments inattendus. Déjà, quelle idée de faire une thèse en sociologie. Ça aussi, c'était inattendu. C'est l'effet d'un instant fortuit, d'une sortie de piste à 180 degrés. Faut m'imaginer à 20 ans, étudiante en 3e année de géographie. Par le plus grand des hasards, je me retrouve à faire un stage dans un domaine qui n'a a priori rien à voir. Un studio spécialisé dans la production de podcasts, la boucle est bouclée. Notre sujet, je vous le donne en mille, le travail du sexe. Faut dire que j'ai toujours laissé une place dans ma vie et dans mes tafs d'ailleurs à l'inattendu. Avec du recul, je crois bien que c'est une capacité qui m'aide à tenir dans mes recherches pour ne pas me laisser submerger par tous les petits événements que je n'avais pas anticipés sur le terrain. Bon, bref, je me passionne sur les questions liées au travail du sexe et je m'engage dans un mémoire sociologie à ce sujet. Très vite, je me retrouve à faire une thèse. Plutôt que de trouver une thèse, on peut dire que c'est un petit peu mon sujet de recherche qui m'a trouvé, bien au-delà d'une envie de faire à tout prix une carrière dans la recherche. Je voulais vous parler d'un soir où, en me rendant un date, j'ai croisé Marielle, une de mes informatrices, en train de bosser dehors. C'était l'occasion de vous présenter les instants où le terrain se floute et rentre dans les temps de vie privée. C'était aussi un moment où je me suis retrouvée à culpabiliser d'aller passer une soirée romantique par rapport à la soirée qu'elle allait passer. C'est l'écart entre nos 2 tenues qui a créé cette culpabilité. Son accessoire étant une canette, le mien une rose. Par contre, nous deux, par notre apparence, on représentait une chose commune, la sexualité. Si Marielle, elle arborait une tenue qui symbolisait une sexualité tarifée et professionnelle, la mienne montrait une sexualité plus dissimulée, sous couvert de romantisme. Puis je me suis dit, voilà, non, je vais pas revenir sur ça parce que ça représente pas vraiment mon terrain. Je vais plutôt leur parler de la fois où j'étais dans une association pour faire un entretien et que cet asso a cru que j'étais une travailleuse du sexe sur la simple base vestimentaire. Mais ou alors non, je pourrais plutôt parler du bug mental que ça fait quand tes informatrices deviennent tes amies. Je pourrais aussi parler du simple fait que quand j'explique en soirée mon travail pendant 30 minutes, on me sort « Ah ouais, t'es assistante sociale pour pute, quoi ». Enfin voilà, porte ouverte sur mon esprit, c'est un joyeux beans. Et au final, je n'ai pas réussi à faire un choix sur l'anecdote que j'allais vous raconter. Alors globalement, on s'en fout d'une histoire de thèse racontée individuellement. C'est le cumul de tous ces moments qui fait que la recherche est un monde génial, mais aussi déstabilisant. Je reviens sur ce que je disais au début, la qualité de se laisser porter par le terrain. Il y a un chercheur, Rémi Le Guillou, qui utilise une expression que j'aime vraiment bien. Il parle d'une déambulation attentive. Il utilise ce terme dans un article intitulé « L'observation flottante ou l'école des péripatéticiennes de la sociologie ». Ouais, même dans mes lectures méthodologiques, j'arrive à trouver des rêves qui parlent de prostitution. Mais bon, cette expression, elle résume bien, je trouve, la posture des chercheurs et des chercheuses. C'est se laisser surprendre, sans perdre le contrôle face à l'effet de surprise, tout en naviguant dans différents espaces sociaux. Mon laboratoire, les différentes associations que je rencontre, plus ou moins institutionnelles, mais aussi mes dates, et d'autres. Enfin bref, bienvenue en sociologie, une science pas comme les autres, où la rigueur du scientifique rencontre l'imprévu de l'être humain, et c'est sûrement ça d'ailleurs les sciences humaines.
Les imprévus d'une thèse imprévue, un podcast d'Alicia Plescolucci, doctorante au laboratoire de socio-anthropologie de l'Université de Franche-Comté, réalisé dans le cadre de la Nuit des chercheurs 2024.
Dans cet Univox, vous avez entendu les 4 podcasts de la série Ma sortie de piste, proposée et réalisée par Radio Campus Besançon dans le cadre de la Nuit des chercheurs.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à bientôt sur les ondes.
Univox.